Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 18 mars 2021. Troisième jeudi de ce mois, vous avez rendez-vous avec l'émission du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec une émission mensuelle donc proposée à nouveau ce mois de mars. Aujourd'hui, eh bien, retour sur une poursuite finalement d'émissions spéciales d'intervention qui était initialement prévue dans le cadre des 6e rencontres ouvrières ou d'histoire ouvrière du GREMOS sur le 100e anniversaire du Parti communiste français, le PCF. Rencontre d'histoire ouvrière qui se tenait l'an dernier en 2020 et qui a dû être bousculée et annulée pour sa deuxième journée d'études pour cause de manifestations et mobilisations sociales à l'époque. Alors comme le mois dernier, on retrouve Daniel Durand ici avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Lionel.
Bienvenue sur Dio. Le mois dernier, vous interveniez précisément, Daniel, sur le paradoxe stéphanois et une histoire des municipales locales. Serge Proust est ici présent aujourd'hui avec nous. Serge, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également sur Dio. Vous allez présenter la communication, comme l'on dit lors de ces rencontres et tant de séminaires finalement, que vous n'aviez pu présenter le 24 janvier de l'année dernière, seconde journée de ces rencontres ayant été annulée. Vous dialoguerez ensemble aujourd'hui avec Daniel, tous deux membres donc à la fois du GREMOS et pour Daniel Durand, membre du CEDMO 42. C'est aujourd'hui une émission spéciale consacrée au PCF et Jean Dasté, haute figure culturelle locale. Indifférence nationale et reconnaissance locale, c'est tout l'intitulé de cette émission à suivre aujourd'hui. Vous avez toutes les infos, auditeurs, auditrices, bien sûr, sur le site dédié du GREMOS, gremos.fr, avec un tout nouveau site en place et disponible. Pour ce jour, nous sommes le 18 mars 2021, cela a fait une unanimité finalement aussi avec les historiens ici présents. C'est un anniversaire, les 150 ans de la Commune. 18 mars 1871 débutait cette période insurrectionnelle de l'histoire de Paris, mais pas seulement, qui a duré quelques jours, 71 jours précisément, du 18 mars 1871. À la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Le 18 mars, c'est le soulèvement à Montmartre, Belleville, Ménilmontant. L'armée réussit sans difficulté à reprendre les canons. Cependant, il faut les transporter, les chevaux manquent. Une note du 16 mars 1871 du 3e bureau au ministre de la Guerre a pressé la réaffectation des 1800 chevaux disponibles. Ce 18 mars 1871, l'armée attend les chevaux. On tente même de descendre les canons à bras d'homme. À Montmartre, au matin, le peuple parisien s'éveille et s'oppose à la troupe venue chercher les canons. Puis rapidement, eh bien, celle-ci fraternise avec le peuple un peu partout dans Paris. La population s'en prend aux représentants supposés du gouvernement, élève des barricades et fraternise avec la troupe. Deux généraux, le comte et Clément Thomas, qui avaient participé à la répression du soulèvement de juin 48, sont massacrés par la foule rue des Rosiers malgré les ordres contraires du comité de vigilance de Montmartre et l'intervention du maire du 18e arrondissement, Clémenceau. C'est le début de l'insurrection. Apprenant les événements d'ailleurs, Victor Hugo écrit dans son journal « Thiers, en voulant reprendre les canons de Belleville, a été fin là où il fallait être profond, il a jeté l'étincelle sur la poudrière. Thiers, c'est l'étourderie préméditée. » 18 mars 1871, 18 mars 2021, 150 ans de la Commune de Paris, mais pas seulement. Une émission spéciale, Daniel, était prévue aujourd'hui, en ce jour anniversaire. Finalement, nous avons décidé de la reporter, la décaler au mois de mai prochain et nous tomberons précisément durant cette semaine sanglante qui était évoquée tout à l'heure. Mais Daniel, en propos introductif, vous vouliez également en dire quelques mots.
Merci Lionel d'avoir rappelé donc la date anniversaire, la signification de l'anniversaire d'aujourd'hui. Effectivement, on est le 18 mars, il y a 150 ans, donc le peuple de Paris, le peuple ouvrier, artisan de Paris se soulève à propos donc de la décision du gouvernement Thiers d'enlever les canons payés par les Parisiens pour défendre leur ville. Et pour nous, ça nous touche, cet événement nous touche, parce qu'à Saint-Étienne, même si c'est avec retard et avec une moins grande ampleur, il y aura une grande répercussion dans les milieux révolutionnaires, républicains stéphanois. Et la semaine suivante, à partir du 24 mars 1871, il y a donc des rassemblements, des protestations sur la place de l'Hôtel de Ville. Il y a des affrontements avec les forces forces de l'ordre, et le 25 mars, donc, c'est-à-dire donc, jeudi et vendredi prochain, il y a 150 ans, l'hôtel de ville est occupé. Le nouveau préfet qui vient d'être nommé, qui est le baron de l'Épée, est retenu, et dans les bousculades, il y a un coup de feu qui part et qui va donc tuer le préfet de la Loire. C'est un événement, évidemment, qui à ce moment-là aura un retentissement au-delà du département. La commune est proclamée, la commune de Saint-Étienne est proclamée, mais elle ne durera pas puisque le gouvernement fait venir des renforts de troupes de Lyon, et le 28 mars, trois jours après, donc, l'hôtel de ville est repris par la troupe, les principaux meneurs, entre guillemets, sont arrêtés, et c'est la fin de la commune de Saint-Étienne. Dit comme ça, évidemment, c'est très vite, mais c'est ce que les historiens, notamment Claude Latta et Jean-Michel Eustener, développeront donc, dans l'émission du 20 mai, je pense.
Hein, voilà, du mois de mai prochain.
Du 20 mai prochain.
Claude
voilà.
Latta et l'association des Amis de Benoît Malon.
Oui, exactement.
Qui, bien sûr, travaille et a travaillé énormément sur la question, juste simplement, puisque nous sommes dans cette commémoration de la commune, les 150 ans, on rappelle qu'un rendez-vous, puisque tout cela peut être mis en résonance avec l'actualité sociale, je dirais, et précisément un rendez-vous à l'appel de plusieurs organisations collectifs locaux appelle à un rassemblement, une grande marche ce samedi 20 mars à 10h30 au départ depuis le parc Joseph Sangdols du Puy Couriot, donc étape à l'hôtel de ville et arrivée au fil la SMAC, salle de musique actuelle à Saint-Étienne, qui vient d'être rebaptisée par l'occupation des intermittents du spectacle et de l'emploi depuis semaine dernière, rebaptisée fil social espace Ambroise Croizat, autre référence et autre figure locale. Voilà pour cette grande marche organisée donc ce samedi 20 mars à partir de 10h30. On revient au PCF et à Jean Dasté, Daniel Durand et Serge Proust pour cette émission Grémo spéciale.
Oui, merci, parce qu'il fallait, faire cet insert, c'était nécessaire. Et en même temps, je pense que tout au long de l'émission, il y aura quelques pauses musicales qui évoqueront donc cette période de la commune il y a 150 ans. Mais si nous revenons donc au sujet plus précis de cette émission, donc que Serge, tu as intitulé le PSCF et d'Asté, indifférence nationale et reconnaissance locale croissante. Moi, quand tu m'as proposé de t'interviewer, de t'accompagner, j'étais quand même un peu surpris parce que je te connais par ailleurs comme directeur de l'Institut du Travail de Saint-Étienne, il faut quand même le dire. Et j'ai dit, tiens, pourquoi cet intérêt d'abord pour la culture et cet intérêt donc pour l'histoire d'Asté, le parcours d'Asté dans la région stéphanoise et de ses rapports avec le PCF et le mouvement ouvrier. Alors voilà, j'avais envie de commencer en te posant un peu cette question pour que tu nous éclaires avant de détailler ton propos.
Alors d'abord, je vais commencer par dire que je ne suis pas directeur de l'Institut du Travail. Ne me crée pas de problème.
Mon Dieu.
C'est une amie qui est une collègue juriste qui est directrice de l'Institut du Travail. Moi, je suis simplement membre du conseil d'administration et puis je m'occupe de la lettre que l'on diffuse régulièrement et puis du cycle de conférences. Voilà.
Alors, rectification donc faite.
Voilà, rectification faite. Alors, pourquoi je me suis intéressé au théâtre ? Initialement, on pourrait remonter très très loin quand j'étais relativement jeune. Ce qui m'avait toujours frappé, c'est le fait que dans les années 70, le théâtre était largement une des seules disciplines artistiques qui était à ce point politisée. C'est-à-dire qu'il y avait une longue tradition de théâtre d'agit-prop, etc., etc. Mais on voyait bien que, de manière plus large, si on sortait du domaine du secteur très particulier de l'agit-prop, hein, qui avait une longue tradition communiste, justement, eh bien, on voyait que les grandes parties des metteurs en scène, des artistes du théâtre, et du théâtre public notamment, avaient dans leur activité une forte composante politique. Hein, par leurs références théoriques, par les textes qu'ils mettaient en scène, par la référence centrale à l'époque de Brecht, etc., etc. Bon, par ailleurs, quand on examinait, où j'allais souvent, où je vais moins souvent, mais aussi régulièrement, le Festival d'Avignon, dans les années 70, le Festival d'Avignon, il est dirigé par Paul Puot, qui est un ancien... Bon, dont on retient souvent que c'était le premier collaborateur de Villars, mais qui, dans les années 50, était un cadre communiste important, qui, à ma connaissance, est toujours resté au PC jusqu'à sa disparition. Et puis, à l'époque, le Parti communiste était l'organisation la plus présente au sein du festival. Hein, c'est lui, il organisait des colloques, les militants vendaient à la criée l'humanité, etc., etc. Bon. Donc, on peut dire que au sein du théâtre public, hein, et là, il y a une très grande différence avec ce qu'on appelle le théâtre privé, et principalement le théâtre privé parisien, il y avait des liens, des formes de congruence entre ce qu'était le théâtre public et le Parti communiste. Je me souviens encore que Ariane Mouchkine, en 79, présente un spectacle qui s'appelle Mephisto. Alors, Mephisto raconte l'ascension d'un comédien allemand à l'époque du nazisme et une ascension sociale qu'il connaît par ses compromissions avec le régime nazi, mais en même temps, le spectacle, Mephisto, rencontre, décrit, dénonce la politique du Parti communiste allemand, dont le sectarisme a largement contribué à l'ascension du nazisme. Et Mouchkine dit, on interroge principalement les communistes, c'est davantage un signe de proximité. Et quand Mouchkine, toujours elle, monte 1789 et 1793, elle est largement marquée par l'historiographie communiste autour de Soboul. Donc il valait mieux être robespierriste quand on était dans la troupe du Soleil à présenter 1789 que dantoniste et encore moins girondin, quoi. Bien, donc voilà, il y a un ensemble comme ça, alors de proximité dans les années 70 par les individus, par les thématiques entre le Parti communiste et le théâtre. Et ça, cette dimension m'a toujours, et évidemment sans oublier la place importante que les municipalités communistes ont tenue à partir des années 60 jusque dans les années 80 dans le développement du théâtre et du théâtre public.
Mais Serge, excuse-moi, mais c'est ce que tu viens de dire, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec une partie de ton intitulé lorsque tu parles d'indifférence nationale?
Non, mais l'indifférence nationale, c'est par rapport à Dasté.
Ah, alors...
D'accord. Voilà. Hein, c'est spécifiquement par rapport à Dasté. Bon, et donc, moi, cette dimension-là m'a toujours marqué, intéressé. Donc les liens entre ce qu'on appelle le théâtre public et le Parti communiste, et de manière plus générale, les liens entre le théâtre public et les enjeux politiques. Hein. Et ce qui fait que, par exemple, en ce moment, sur les mobilisations à l'intermittent du spectacle, comme les enjeux politiques sont très importants, ben, ce sont souvent les membres du théâtre public, les comédiens, etc., qui encadrent cette mobilisation, qui sont les plus présents, et puis c'est pas par hasard si, à l'exception de Saint-Étienne, ce sont surtout les théâtres et les gens de théâtre qui sont moteurs de cette mobilisation. Et donc j'en viens à Dasté, précisément parce que j'ai toujours été intéressé par ce lien entre le théâtre public ou le théâtre de la décentralisation et le Parti communiste, disons, et plus largement les enjeux politiques. C'est pour cette raison que j'ai proposé de faire une intervention sur la question, sur les liens entre Dasté et le Parti communiste, parce que précisément, je faisais l'hypothèse que Dasté est probablement un de ceux pour lesquels le lien avec le Parti communiste est le plus distant. Alors, pour différentes raisons que je m'efforcerai de préciser. Et bon, dans le cadre de ce travail, alors moi je ne suis pas historien, je suis plutôt sociologue, et donc j'ai à la fois, j'ai plutôt fait un travail d'historien, même si je m'appuie sur un certain nombre de cadres théoriques et de méthodes sociologiques. Et donc dans le cadre de ce travail, ce qui me semble important de souligner, c'est précisément un rapport de distance de la direction nationale du Parti communiste, notamment des responsables, des intellectuels qui entretiennent une grande distance avec Dasté. Mais à l'inverse, Dasté se montre très peu politique, très peu politisé, n'intervient pas dans l'espace politique, y compris dans les années 60. Hein, alors qu'effectivement, on peut souligner que localement, il y a des formes diverses de proximité, de d'asté, pas forcément directement avec le Parti communiste, mais avec un certain nombre d'organisations qui relèvent de ce que Jacques Yon appelle le conglomérat communiste. C'est-à-dire que Jean d'Asté apparaît beaucoup plus proche de certaines organisations comme l'Union des femmes françaises et surtout la CGT, qu'il n'est proche du Parti communiste. Ça ne veut pas dire qu'il y a des coupures radicales. Hein. Mais au fond, ce qui intéresse plus d'Asté, c'est, y compris dans sa logique de développer un théâtre populaire, de s'adresser à la CGT et de s'appuyer sur la CGT.
Si tu veux bien, donc, avant que tu approfondisses ces affirmations, je propose qu'on fasse une première pause musicale, Lionel.
Pas une innovation.
Nous voulons conduire à l'union du peuple de France, à la réconciliation de la nation française contre les 200 familles et leurs agents fascistes.
Dites donc, après le travail, vous passerez à mon bureau, hein?
Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter.
Qu'est-ce qu'il te voulait?
Il me veut que je suis trop vieux.
Le monde capitaliste tient encore debout. Dans ces conditions, les paysans devront-ils se résigner et attendre? Nous ne le pensons pas.
Le Parti communiste vous appelle à prendre l'avenir en main.
Camarades, la vie est à nous.
Toujours dans l'émission du Grémoz, Daniel et Serge, petite sélection faite à l'instant avec un extrait. C'est la bande originale du film, la bande annonce, pardon, pas bande originale, bande annonce du film La vie est à nous de Jean Renoir avec précisément Jean d'Asté présent au sein de ce film. On est à la veille pour la France d'élections législatives de 1936 et voilà, le film s'ouvre en opposant le discours d'un instituteur sur les richesses de la France et la réalité sociale vécue par ses élèves. Et on est comme ça entre documentaire et mise en scène, allocution aussi filmée de dirigeants pour ce film dit de propagande commandité par le PCF, une réalisation collective donc dirigée par Jean Renoir et on est bien sûr à la veille du Front Populaire. Voilà, c'était l'extrait que l'on pouvait proposer pour cette émission spéciale PCF et Jean d'Asté avec Daniel Durand et Serge Proust.
Bien, eh bien, Serge, revenons donc. Moi, je propose qu'on revienne sur ta première affirmation, dont tu dis qu'elle t'a toujours intrigué, ce que tu appelles une distance, en somme, des intellectuels communistes nationaux avec d'Asté, avec la Loire, le travail de d'Asté dans la région stéphanoise. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça?
Alors, je dirais même la distance dans les années 50 du Parti communiste à l'égard même de l'ensemble du théâtre de la décentralisation, même de l'ensemble du théâtre. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 50, le Parti communiste mène des politiques culturelles en direct, si je puis dire, mais en privilégiant certains secteurs, c'est-à-dire la poésie, ce qui peut paraître paradoxal ou surprenant actuellement, mais et surtout le cinéma, et où il est très puissant.
Hein. La lecture aussi.
Et j'allais y venir, donc, la lecture, hein, où là aussi, il est... Alors pourquoi? D'une part, parce que ce sont des secteurs où il est puissant, hein, où il peut mobiliser... Et puis la peinture, hein, il peut s'appuyer sur des grands artistes, Picasso d'un côté, Aragon, etc. Bon, il peut aussi s'appuyer sur des secteurs comme le cinéma où il est puissant parmi des réalisateurs, mais aussi parmi les techniciens. Alors, il est puissant directement ou indirectement par la CGT, hein, par les syndicats. Et puis, je dirais aussi qu'il s'intéresse beaucoup au cinéma parce que ça lui permet de développer des politiques nationales anti-américaines, notamment avec les accords Bloomberg. Hein, puisque, avec les accords Bloomberg, pour aller vite, les Américains mènent, qui ont toujours compris la place de la culture dans les formes d'hégémonie, en quelque sorte, hein, les Américains disent... font pas du chantage, ce serait un peu excessif, mais enfin conditionnent une part de leur soutien économique à la France qui en a bien besoin, au fait que la France soit moins protectionniste dans le domaine du cinéma. Donc ouvre globalement son cinéma au cinéma américain. Bien, donc il y a comme ça différents secteurs. Je dirais aussi que la référence à l'Union soviétique justifie aussi comment on a différents secteurs prioritaires. Par exemple, quand on voit, quand on lit la Nouvelle Critique, on voit bien que de manière récurrente, en même temps que la Nouvelle Critique privilégie certains secteurs, eh bien, elle fait des références à l'expérience soviétique qui sert de cadre, quoi, qui sert d'étalon de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et à côté de ça, le théâtre, quelle est la caractéristique du théâtre du point de vue du Parti communiste, et principalement, hein, puisque moi j'ai travaillé sur l'ensemble des numéros de la Nouvelle Critique, qui apparaît en 51 et qui est la revue qui s'adresse aux intellectuels. Au fond, du point de vue du Parti communiste, quelle est la situation du théâtre? Premièrement, sans être excessivement désagréable, pendant l'occupation... le secteur théâtral n'est pas un des secteurs les plus militants, les plus résistants. Alors, ça ne veut pas dire que tous les écrivains, au contraire, ont été résistants, que tout le cinéma a été résistant, mais il y a comme ça certains secteurs où il y a eu de la résistance et où le Parti communiste peut s'appuyer sur des martyrs, en quelque sorte. Hein. Or, dans le cas du théâtre, le Parti communiste ne peut pas s'appuyer sur des martyrs qui viennent de ce secteur. Il y a eu un ouvrage publié il y a quelques années, il y a même des grands metteurs en scène, hein, qui se sont appuyés sur l'antisémitisme pour se débarrasser des metteurs en scène et des réalisateurs juifs. Hein. Bien, premier point, au fond, le Parti communiste à la libération, il est peu présent et lui qui se réclame d'être le parti des fusillés, il a peu de martyrs dans ce secteur-là. Deuxième aspect, ce qui prédomine à la Libération et dans les années 50, c'est un théâtre bourgeois. Théâtre commercial, théâtre bourgeois, etc. etc. Troisième aspect, les grands auteurs de théâtre, si je prends les plus bourgeois, entre guillemets, comme Anouilh, les grands auteurs de théâtre sont Sartre et Albert Camus, qui sont vécus comme étant des anticommunistes. Et donc, avec des variations, mais enfin, globalement, surtout au début des années 50, il y a un article dans la Nouvelle Critique où on traite Sartre de fasciste. Bon, voilà. Et autre aspect, il y a un désintérêt à l'égard du théâtre de la décentralisation, dont on pense que c'est une tentative vouée à l'échec de rénover le théâtre. Donc, par exemple, la Nouvelle Critique ignore radicalement l'expérience de Villars, hein, et le Festival d'Avignon. Et donc,
jusqu'à quelle date?
Mais jusqu'au début des années 60. Hein, la Nouvelle Critique n'évoque quasiment jamais cette expérience-là. Hein. Bien. Et donc, ce qui reste, c'est le théâtre communiste le plus, le plus agitprope, le plus militant, le plus sectaire, à partir d'auteurs qui ont complètement disparu de l'histoire du théâtre, qui font peut-être simplement partie d'une petite note dans une histoire du théâtre. Donc voilà, le Parti communiste privilégie, se désintéresse et n'a pas de mots assez durs sur tout ce secteur, l'ensemble du champ théâtral, pour différentes raisons, hein, des raisons très hétérogènes, mais donc y compris la décentralisation. Hein. Et donc la Nouvelle Critique ignore radicalement Jean d'Asté. Comme elle, mais là, d'un certain point de vue, d'Asté n'a pas de traitement particulier. Et cette ignorance va globalement durer tout le temps. Alors, mais cette ignorance va se poursuivre, disons, jusque dans les années 60. Hein, mais à partir de la fin des années 50, pour une raison radicalement différente. C'est-à-dire que ce qui se passe à la fin des années 50, c'est une série de révolutions esthétiques dans le champ théâtral qui vont déclasser l'esthétique du théâtre de décentralisation. Et notamment, c'est Beckett, c'est Brecht, etc. Donc des grands révolutionnaires, d'un point de vue esthétique au moins, hein, du théâtre, et qui vont faire que l'esthétique du théâtre de la décentralisation, porté par d'Asté, mais que d'Asté, au fond, poursuit une longue tradition qui vient de Copeau. Hein, la tradition, l'esthétique du trait tenu, en quelque sorte, hein, la valorisation du texte. Alors, c'est ça l'esthétique du cartel et c'est ça l'esthétique de d'Asté. Alors, en partie pour des raisons économiques. Hein, c'est-à-dire que d'Asté n'a pas les moyens de mettre en place et de développer des esthétiques scéniques extrêmement développées. Mais cette dimension économique existe, mais elle n'explique pas tout.
Excuse-moi, Serge, mais tu donnes cette position par rapport à d'Asté, et pourtant, presque à la même période, est-ce qu'il n'y a pas une autre position du PC par rapport à un autre metteur en scène régional, Roger Planchon, à Lyon, à partir de 1956
Oui, mais précisément. Précisément.
Ouais, alors, pourquoi la différence ?
Mais parce que précisément, Planchon va s'inscrire dans les transformations, dans les révolutions esthétiques de la fin des années 50. C'est-à-dire, ce sera Brecht en particulier, et puis d'autres auteurs de cette révolution esthétique. Par exemple, Planchon va jouer un rôle très important pour donner une autre signification au texte classique. Au fond, d'Asté reste dans une vision classique des textes classiques et dans une logique démocratique. Il faut diffuser la culture savante. Bien, Planchon va prendre toute une série de textes, par exemple Georges Dandin, même si c'est un peu plus tardif, et va en faire un texte révolutionnaire pour montrer l'ascension de la bourgeoisie. Hein, voilà, il fait cette interprétation-là. Et puis, il va s'appuyer sur une esthétique brechtienne de montrer le théâtre, montrer les coulisses du théâtre, etc., etc. Bien, et donc... D'Asté est confronté à ces révolutions esthétiques. Et je signale, comme d'autres, que très rapidement, confronté à ces révolutions esthétiques, très rapidement, dès la fin des années 50, D'Asté fait de moins en moins de mise en scène. Hein, et que son grand spectacle, celui qu'il a fait connaître, etc., le Cercle de Crécaucasien, c'est pas vrai. Quand on regarde les distributions, ce n'est pas lui qui est affecté à la mise en scène. Hein? Bien. Et le Cercle de Crécaucasien est précisément l'exemple typique de la manière dont d'Asté va être confronté à ces révolutions esthétiques et va être déclassé. Hein? Et donc d'Asté raconte lui-même que, mettant en scène le cercle de Crécaucasien, qui rencontre un grand succès public, spectacle qu'il avait vu quelques années auparavant dans la mise en scène initiale de Brecht. Donc il propose une nouvelle mise en scène qui rencontre un grand succès. Et là, il est convoqué, gentiment mais convoqué, par les rédacteurs en chef de Théâtre Populaire, c'est-à-dire Dort et d'autres, Dort, Barthes, hein, qui, cette équipe, hein, au départ... était en soutien, soutenait fortement Villard. Et Barthes raconte lui-même, et Dort raconte lui-même, que la découverte des spectacles de Brecht est pour eux une révolution. Et ils rompent avec Villard, sur cette base-là, hein, sur cette base de l'esthétique brechtienne et de l'interprétation qu'ils font de l'esthétique brechtienne, et... ils sont eux-mêmes, donc ils sont confrontés au spectacle de d'Asté et le convoquent et lui font passer un examen, en quelque sorte. Hein. Et Dasté raconte ça lui-même, qu'au fond, bon, globalement, gentiment, ils lui disent qu'il n'a rien compris, quoi. Hein, qu'il n'a rien compris à Brecht. Et donc, ce qui se passe, donc on voit bien que Dasté est confronté à ça, mais pour bien comprendre les transformations dans son lien avec le PC, c'est que le PC, vers la fin des années 50, les fractions intellectuelles sont elles-mêmes confrontées aux transformations qui interviennent dans le monde intellectuel. Et elles-mêmes, dans la rupture qu'elles opèrent avec le stalinisme, vont opérer elles-mêmes des révolutions internes et essaient de s'appuyer sur les nouvelles fractions intellectuelles, sur les nouvelles esthétiques. Par exemple, mettent en place des liens très puissants, des liens beaucoup plus présents avec une revue comme Telle Quelle, dirigée, fondée par Solers. Bref, les intellectuels communistes, dans une rupture radicale, pense-t-il, avec le stalinisme, vont s'intéresser prioritairement aux nouvelles esthétiques dans les différents domaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre ? Ils s'intéressent, par exemple, à Brecht et à Planchon, et vont totalement se désintéresser de Dasté. Donc c'est pour cette raison, et ce désintérêt va durer jusqu'à la fin de la direction de Dasté de la Comédie. Hein. Il y a un seul article, sur 20 ans, que la Nouvelle Critique consacre à Dasté pour dire que, bon, ils sont gentils, ils sont de bonne composition, on comprend, on soutient leur projet de démocratisation, mais que là aussi, leur esthétique n'est pas intéressante, que les comédiens ne sont pas très bons. Voilà, c'est ça que j'appelle la distance nationale.
Bien, je te propose qu'on fasse une pause maintenant. Lionel.
Les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur en dégorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.
Voilà, alors la platine fait un peu sa révolution à elle et n'a pas voulu prendre mon CD Les Chants de la Révolution et Chants de la Commune. J'avais sélectionné le mouvement du 18 mars, mais on l'écoutera peut-être ultérieurement. Bon, j'avais sélectionné bien sûr cet hymne intemporel du mouvement ouvrier qui néanmoins reste dans la bande-son finalement aussi de la Commune, Daniel et Serge, écrit par Eugène Potier, vraisemblablement dans les semaines qui ont suivi la Commune de Paris, l'International, qui ne sera pourtant publié que bien des années plus tard avant d'être mise en musique en 1888, chantée à l'occasion des congrès de l'International, qui deviendra ensuite l'hymne national de l'URSS jusqu'en 1944. Voilà, c'est quand même un chant politique important, le plus traduit au monde et qui résonne encore aujourd'hui, bien sûr, dans les cortèges et les manifestations. On retrouve dans cette émission du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur l'histoire du monde ouvrier stéphanois, Daniel Durand et Serge Proust pour cette émission spéciale PCF et Jean Dasté.
Alors Serge, tu viens d'expliquer en quoi, disons, que les intellectuels communistes au niveau national, donc... dédaigne, si on peut utiliser ce terme, Jean Dasté, et en même temps lui-même ne s'implique pas directement dans les débats politiques, culturels ou autres de l'époque. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction avec le vécu donc concret, l'action concrète de Dasté lorsqu'il s'implante à Saint-Étienne, avec son petit à petit son développement de ses relations avec les milieux ouvriers, avec les comités d'entreprise notamment, avec la création des réseaux correspondants, c'est-à-dire donc où il se tourne donc directement vers les milieux ouvriers et donc forcément dans un département comme la Loire vers les des militants communistes, tant à travers ce que tu as appelé le conglomérat communiste sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, donc la CGT, les diverses associations d'éducation populaire et les jeunesses communistes au moment de la guerre d'Algérie et d'autres. Donc comment est-ce tu analyses en somme cette marche, cette course des deux niveaux un peu nationaux et départementaux?
Bah, j'analyse, enfin je le constate simplement. Hein. Bon. Et puis c'est peut-être aussi une manière de souligner que le Parti communiste n'est pas non plus marqué par une totale cohérence. Hein. C'est-à-dire qu'entre les niveaux nationaux et locaux, il peut y avoir des écarts relativement importants en fonction des conjonctures. Et puis que, notamment dans les années 50, les prises de position des intellectuels communistes sont probablement réservées à des espaces relativement limités. Hein. Beaucoup de militants communistes de la Loire dans les années 50 n'ont probablement rien à faire des points de vue de la nouvelle critique sur Dasté. Donc c'est pour cette raison hein, que je distingue bien cette indifférence nationale et puis une forme de proximité en quelque sorte au niveau local. Alors d'abord sur cette notion de conglomérat, c'est pas moi, hein, c'est une notion de Jacquion, pour souligner que le Parti communiste, notamment dans les années 50 et 60, où il est marqué par une extraordinaire puissance, hein, est au centre d'un ensemble de structures qui forment un conglomérat. Bon, ensemble de structures, de l'Union des femmes françaises à
Travail et
culture, la CGT évidemment, voilà. Alors évidemment, ce conglomérat n'obéit pas non plus forcément au doigt et à l'œil aux injonctions du Parti communiste, notamment la CGT. Bien. Donc la première chose, hein, donc ce conglomérat, dans le cadre de certains de ces organisations et certains des militants vont manifester une plus grande proximité avec Dasté. Alors prenons d'abord le cas Dasté. C'est-à-dire Dasté, quand il arrive en 1947, il s'inscrit dans une longue tradition d'un théâtre populaire, alors parfois qu'on a mythifié. Hein, mais je ne vais pas développer ça. Mais en tout cas, quand il arrive en 1947 et qu'il est dans une logique de, comme ça se fait dans quelques villes, de mettre en place le théâtre de la décentralisation, qui est un théâtre de la démocratisation et de s'intéresser au peuple, vu de manière extrêmement large, eh bien, étant dans un département ouvrier, un de ses interlocuteurs principaux naturels, c'est évidemment les organisations syndicales, les comités d'entreprise. Et donc, évidemment, qu'il le veuille, à la limite, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit proche ou pas du Parti communiste, le projet politique porté par la décentralisation, c'est-à-dire un projet de démocratisation de la culture nationale, hein, parce que c'est quand même ça, et ou de la culture occidentale, passe nécessairement par le conglomérat communiste. Hein, et d'un certain, dans ce sens, les prises, l'opinion politique personnelle de Dasté, que je ne connais pas parce qu'on a peu de sources, hein, on n'en sait trop rien, est peu importante. Hein. Bon, ce qu'on peut marquer, c'est que, et on peut le comprendre parce qu'il est isolé dans les années 50 et 60, c'est qu'il n'a jamais manifesté de prise de position politique officielle en signant des pétitions, etc., etc. Hein. Bon, peut-être parce qu'il ne partageait pas ses opinions, mais peut-être aussi parce que la conjoncture politique et sa dépendance économique lui interdisaient. Bien, en tout état de cause, hein, ce qu'on constate, en lisant un certain nombre d'archives ou en passant par la presse communiste, on voit bien qu'il s'appuie sur ce conglomérat communiste. Alors, il peut s'appuyer sur d'autres structures. Hein, c'est pas exclusif. Hein, il peut s'appuyer peut-être sur les structures catholiques, etc. Je n'en sais rien d'un certain point de vue.
Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas d'ailleurs une rencontre de l'autre côté, donc du côté des organisations ouvrières, de la CGT et d'autres, tout un courant qui date depuis le Front populaire de volonté de promouvoir une éducation populaire?
Oui, hein, bien sûr.
Et que l'action théâtrale est considérée, en somme, que la diffusion et le soutien, par exemple, au travail théâtral de Dasté, est considéré comme une forme de développement de l'éducation populaire, en plus de la lecture et de l'instruction de base.
Oui, bien sûr. Par exemple, Marius Berthoud, qui est un ancien responsable de la CGT, a rédigé un ouvrage là-dessus. Bon, il y a une histoire culturelle de la CGT, avec des grands moments, 36, etc. Bon, donc, évidemment, ça rencontre des préoccupations dans ces organisations-là, et notamment la CGT, hein, et notamment un certain nombre de cadres des comités d'entreprise, étant entendu qu'il faudrait faire une sociologie de qui, à l'intérieur de la CGT et qui, à l'intérieur des comités d'entreprise, va s'intéresser à la politique culturelle et pas à la politique revendicative, par exemple. On peut faire l'hypothèse que ce n'est pas n'importe quel type de militant communiste qui, présent à la CGT, ou présent dans un comité d'entreprise, va s'intéresser au théâtre et pas aux politiques revendicatives ou autres domaines.
Il serait intéressant aussi de le lier à la structure économique du département de la Loire, c'est-à-dire à un département où il y a tout un secteur industriel d'entreprises de précision dans la métallurgie, qui ont donc un secteur d'ouvriers qualifiés, P3, etc. Et donc dans les militants des comités d'entreprise qui s'intéressent à l'action culturelle, qui s'intéresse certainement les ouvriers les plus qualifiés.
Bien sûr. En réalité,
un travail là-dessus à faire.
Et en réalité, et c'est pas une critique, hein, tous les éléments plus ou moins épars que l'on a sur la sociologie des publics, étant entendu que pendant très longtemps c'était quand même très imprécis, on a quand même affaire aux couches moyennes, c'est-à-dire les enseignants, les employés, et puis parmi ceux qui vont se définir comme étant des ouvriers, on a plutôt affaire à des cadres. Au fond, les cadres des organisations politiques et les cadres des organisations syndicales, voire des ouvriers qualifiés. Hein. Mais Dasté lui-même, en 65, dit lui-même qu'en fin de compte, il touche, sauf à quelques occasions particulière, parfois illustrée par les photos d'Ito Josué, les photos mythiques, hein, donc, qui contribuent aussi à construire un mythe, hein, sur ce théâtre-là. Bien, mais globalement, Dasté est le premier à reconnaître en 65 qu'il touche relativement peu les catégories les plus populaires. Hein. Mais c'est clair que à la fois s'adresser, passer par le conglomérat communiste répond complètement au projet de la décentralisation. Hein. Mais même si ce conglomérat, encore une fois, n'est pas exclusif, encore une fois, Dasté peut passer probablement par les milieux catholiques, protestants, etc. Mais il passe aussi par ça. Hein, parce que ça correspond d'une part, effectivement, à un certain nombre de préoccupations de ce conglomérat, des organisations, et que ça correspond aussi à une transformation au sein des collectivités locales. C'est-à-dire que notamment avec la Ve République, avec la Ve République et la mise en place du ministère de la Culture, il y a donc développement de la politique culturelle au niveau national, mais aussi au niveau local. C'est-à-dire les municipalités s'intéressent de plus en plus aux politiques culturelles. Alors d'une part parce que la population, il y a une demande sociale, parce que d'autre part il y a un certain nombre de tâches minimales et d'investissements de base qu'elles ont pu effectuer dans les années 50, l'adduction d'eau, etc., etc. Bien, donc c'est municipal. Et d'autre part, il en résulte que les politiques culturelles municipales deviennent un enjeu politique. Mais qu'on connaît bien à Saint-Étienne, puisque c'est à Saint-Étienne qu'a été fondée la Fédération nationale des centres culturels communaux. Bon, donc on connaît bien. Donc ça devient un enjeu politique. Et c'est un enjeu politique auquel le PCF ne peut pas échapper. Et d'ailleurs, dans les archives du CEDMO, j'ai trouvé une petite circulaire de Gaston Plissonnier en 61-62.
Gaston Plissonnier, qui est le secrétaire national du PC à l'organisation.
Voilà, donc
c'est lui qui impulse la circulation de l'information dans les structures du PC.
Oui, et donc, en tant que secrétaire à l'organisation, après le secrétaire général, c'est le numéro 2. Bon, et on voit bien qu'il demande aux maires et aux cadres communistes de s'intéresser, de s'impliquer au sein de la FNCC. Donc, il y a à la fois pour des raisons locales, les mairies développent des services culturels, mais aussi parce qu'au niveau national, la politique culturelle municipale devient un enjeu politique dont le PCF veut se saisir, eh bien, on s'adresse, le Parti communiste aussi, s'adresse à Dasté pour mettre en œuvre, en quelque sorte, leur politique culturelle. Et par exemple, quand Unieux met en place son premier théâtre, la première, l'inauguration, est faite avec la Comédie de Saint-Étienne.
On peut signaler comme repère, c'est que le PC, après 58, donc conquiert la municipalité de la ville, reconquiert la ville d'Unieux, et effectivement, il met en avant, après, dans sa propagande, si on peut dire, les réalisations culturelles de sa petite ville londonienne. Et ensuite, la deuxième ville reconquise dans cette période, c'est en 1971, la Ricamari, qui elle aussi va prendre des initiatives culturelles fortes au niveau de la lecture, avec la création d'un salon du livre, puis ensuite au niveau de la création d'une salle de spectacle, qui sera la salle d'Aquin, dans les quelques années après. Et l'exemple de ces deux villes est fortement valorisé dans la propagande communiste de la fin des années 60.
Alors, et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, il y a ce qui fait que progressivement, il y a quand même une forte proximité. Hein, par exemple, en 64, les syndicats fêtent les 60 ans de Dasté dans la Bourse du Travail, et c'est Joseph Sangedols qui fait le discours, en quelque sorte. Alors, je voudrais dire, avant d'aborder la question de la crise de la Maison de la Culture, parce que ça, c'est intéressant, je voudrais dire deux points. Pour quelles raisons il y a ce lien? Alors, qu'est-ce qui permet aussi le lien entre, disons, le conglomérat et Dasté? C'est d'une part, au fond, que Dasté, pendant très longtemps, valorise la culture classique, Molière, etc., etc., bon, qui correspond aussi à un projet... disons, de la frange républicaine du Parti communiste, par exemple, quand pensons aux éditions sociales qui avaient fait une collection particulière qu'on appelle les classiques du peuple. Bon, ça, c'est la première chose, très important. Et le deuxième aspect, c'est que Dasté a une esthétique, au fond, d'un théâtre qui réunit. Alors que Brecht, explicitement, et des gens aussi comme Planchon, sont là pour faire un théâtre qui divise, un théâtre qui interpelle, un théâtre qui interroge. Dasté est plutôt dans une logique d'un théâtre qui réunit. Et dans ses textes, il va toujours insister sur le fait que le spectacle est intéressant, mais qu'il est aussi amusant, qu'on va passer un bon moment, qu'il est distrayant, etc., etc. Donc ce sont ces différents aspects, cette combinaison qui explique. Pour terminer, je voudrais quand même souligner ce qui va se passer autour de la crise de la Maison de la Culture en 65. Parce que c'est intéressant, parce que là, on a le sentiment que, disons, les militants communistes ou cégétistes ont une position un peu ambivalente. Je rappelle donc que le ministère de la Culture met en place des maisons de la culture et qu'il y a un projet à Saint-Étienne. Bon, et posé à la question de la Maison de la Culture, se pose la question de quel est le projet et qui va diriger. Bon. Or, là, on a un jeu à plusieurs acteurs, en quelque sorte. d'Asté, surtout au départ, au fond, il voit bien qu'il y a un outil qui va être proposé, éventuellement avec des moyens, peut-être davantage de moyens que lui n'en a, puisqu'il est toujours dans des conditions précaires. Donc globalement...
Les conditions précaires, c'est les greniers de l'école des mines,
oui,
hein,
voilà.
Il faut le dire. Hein.
Oui, oui. Et donc évidemment, le projet, c'est quand même, son projet, c'est de dire, de prendre la direction de la maison de la culture. Bon. Il y a le maire... qui va être en conflit, et lui et d'autres, hein, qui est en conflit avec le ministère de la Culture, parce qu'en fin de compte, les mairies veulent prendre la direction de la maison de la culture, alors que le ministère de la Culture refuse cette logique-là. Et il y a l'ensemble des structures locales qui, elles aussi, voudraient être associées à la direction de la maison de la culture. Enfin, il y a des textes assez clairs. Hein, bon. Et donc là, et d'un certain point de vue... Sans entrer dans un désaccord radical, dans un conflit explicite avec d'Asté, en tout cas, il me semble, bon, ce sera peut-être à préciser, mais que dans un premier temps, sans le dire explicitement, elle rentre quand même en conflit avec d'Asté, un conflit encore une fois implicite, hein, parce que parfois, du point de vue par exemple du Parti communiste, il est plus important de critiquer le maire que de critiquer, pour des enjeux politiques locaux, il est plus important de critiquer le maire que de critiquer d'Asté. Mais comme ça, on a un jeu à trois, hein, à trois groupes en quelque sorte, où l'enjeu principal, c'est qui va diriger, hein, qui va diriger la maison de la culture. Bon, alors le problème, en quelque sorte, va être réglé, puisqu'il n'y aura jamais de maison de la culture au sens...
Malraux.
Au sens Malraux, hein, il n'y aura jamais de maison de la culture au sens Malraux, puisque de fait, la mairie va toujours refuser que les maisons de la culture soient autonomes. Hein. Donc d'un certain point de vue, le problème va être réglé. Mais on voit bien que, si tu veux, d'Asté, dans les années 60, quand même s'inscrit dans la tendance générale de la décentralisation, d'affirmer son autonomie, d'affirmer les principes, d'être autonome, et ça veut dire aussi, hein, du point de vue de la décentralisation qui va augmenter dans les années 60, d'être autonome par rapport aux organisations locales. Ce qui implique des éléments de tension entre d'Asté et, pour aller vite, et pas uniquement, mais des éléments de tension avec le conglomérat communiste.
Est-ce qu'il y a des enjeux ? Mais dans ces enjeux, il y a à la fois un enjeu donc strictement politique de pouvoir donc entre mairie, association, etc. sur le contrôle de la... Mais il y a en même temps un enjeu pour d'Asté, c'est de possibilités, en somme, de matériel, enfin, pour de création.
Bien
Et
sûr.
Est-ce que ça ne va pas se régler, à mon avis, en partie par l'intervention... À ce moment-là, je pense, le coup de pouce de la CGT qui va aider à ce que la Fédération nationale des métiers du travail, qui est implantée à Saint-Étienne et donc qui est quand même proche des milieux syndicaux, va accepter de que sa salle de spectacle, son théâtre, en somme, soit attribuée à d'Asté, ce qui va permettre la création de la salle des métiers du travail. Et donc, le problème de... À ce moment-là, le problème de la salle pour d'Asté étant réglé, les questions, pour lui, son rapport à la maison de la culture se règle aussi.
J'en sais rien, il faudrait...
Une recherche spécifique.
Il faudrait voir les archives de la Fédération des mutilés du travail, de voir comment se sont passées les négociations entre cette fédération, d'Asté, éventuellement la mairie, l'État, le ministère de la Culture, etc. Puisque, effectivement... de manière, par comparaison, on peut dire que d'Asté était à la fois un des fondateurs de la décentralisation, et par comparaison avec Planchon et des tas d'autres, il était dans les plus mauvaises conditions de travail.
Hein,
ce qui posait des problèmes parce que, effectivement, ces conditions de travail faisaient aussi que les gens de la troupe avaient envie de partir.
On arrive évidemment à la fin de notre émission. J'avais envie quand même, en dernière question pour te permettre de conclure, tu as intitulé donc du rapport entre d'Asté et le PC, mais est-ce que derrière, c'est vraiment un rapport entre d'Asté et le PC ou un rapport entre d'Asté et le monde du travail et le monde ouvrier? C'est-à-dire que s'il y a une fascination ou un intérêt, est-ce que ce n'est pas avant tout pour l'intellectuel metteur en scène une fascination entre le monde ouvrier et tout ce qu'il peut porter, et dans lequel et finalement il rencontre des organisations, des communistes, etc., qui dans la région stéphanoise sont prédominants à cette époque, puisqu'il faut dire par exemple que pendant toute cette époque, le Parti socialiste a disparu presque de la région stéphanoise.
Oui, non, mais je pense qu'il y a des textes, il y a des textes d'Asté qui montrent qu'il y a chez d'Asté ce qu'on appelle en sociologie une vision populiste du peuple, c'est-à-dire un peuple qui est, qui a toutes les qualités possibles et imaginables.
Qui est mythifié.
Oui, qui est mythifié. Hein, mais ça, c'est une vieille tradition populiste qui remonte au début du théâtre populaire, à la fin du 19e, hein, au début du 20e. Donc on voit bien aussi qu'il y a chez d'Asté cette histoire-là qui peut expliquer, hein, in fine, le rapport qu'il a entretenu. Mais étant entendu que le rapport qu'il a au peuple, mais, et c'est toujours un de leurs problèmes, c'est qu'il est toujours médiatisé par des intermédiaires, hein, et notamment les militants syndicaux et les militants politiques.
Bien. C'était une bonne conclusion, je crois, Lionel.
Merci Serge, merci Daniel pour cette émission spéciale. Le PCF et Jean d'Asté, indifférence nationale et reconnaissance locale. On aura l'occasion de se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission qui sera consacrée cette fois à un autre sujet. Au mois d'avril, ce sera les mines de la Chazotte, notamment avec une balade audio et sonore qui sera proposée. Et au mois de mai prochain, on le disait, la Commune. Et nous allons terminer encore sur cette bande-son finalement de la Commune, jour anniversaire aujourd'hui de ce 18 mars. Merci encore Serge, merci Daniel. On rappelle merci le site dédié du Grémos, hein, tout de même, grémos.fr, le tout nouveau site en place et en ligne. Et puis on rappelle que le CENMO, qui a été cité à plusieurs reprises, dont est membre actif Daniel Durand, c'est le Centre d'études et de documentation sur l'histoire, la culture et la mémoire du mouvement ouvrier stéphanois. Merci encore en vous souhaitant une très belle journée. On va terminer avec un chant de la Commune, l'insurgé, en guise de générique de fin. A très bientôt, au mois prochain avec le Grémos.
Esclavage, l'insurgé se dresse. de fusils chargés.